Bonjour chers auditeurs, merci de nous accompagner pour cette émission sur le patrimoine de notre région. Après la redécouverte de l'âge du bronze, je vous propose aujourd'hui de nous rapprocher de notre période contemporaine, sans peut-être pour autant s'y retrouver pleinement. Nous sommes en décembre. Dans 25 jours, c'est Noël, jour de la nativité à Bethléem, qui précède la visite des mages. On dit d'ailleurs l'adoration des mages. Il est tentant d'évoquer ce sujet, c'est ce que nous allons faire. L'émission de décembre 2021 avait porté sur les crèches en Bourgogne avec sa vidéo, que vous pouvez toujours retrouver sur notre site patenvbfc.org. Nous allons donc aujourd'hui évoquer cette adoration des mages, ou plutôt un lien qui existe entre cette adoration et un terrible fait humanitaire toujours présent, mais qui, heureusement, tend à disparaître. Pour cela, nous partons pour la commune de Champagney en Haute-Saône. Située dans une région particulièrement vallonnée, cette très jolie petite commune de 3800 habitants possède une église dédiée à Saint-Laurent, mais également une très jolie mairie portant encore la mention gravée de « mairie-école ». Nous sommes accueillis par Marie-Claire Fèvre, je devrais plutôt dire d'ailleurs respectueusement, Madame le maire, Marie-Claire Fèvre. Bonjour Madame le maire et merci de nous accueillir en votre commune.
C'est avec beaucoup de joie que je vous reçois aujourd'hui en cette commune de Champagney et plus précisément sur les lieux de la Maison de la Négritude qui fait appel, comme vous le verrez, à la mémoire collective puisque ce musée il est né aussi d'un vœu qui a été signé en 1789 par les habitants de Champagney qui se sont émus de la situation des Noirs dans les colonies. D'autres points qui sont importants aussi sur cette ville, c'est de signaler qu'au sein de notre église, dans le clocher comtois, dans le bulbe clocher comtois dont nous disposons, nous abritons aussi un carillon de 35 cloches et que le premier, au plus proche, doit être dans la région de Dijon, puisque comme chacun sait, les carillons aujourd'hui sont plus situés du côté des Flandres. On a tous en mémoire Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Ce n'est pas vraiment des carillons, c'est des fois autre chose, mais c'est plutôt dans ce secteur-là que se situent les carillons aujourd'hui. Ce carillon de Champagné a d'ailleurs fait l'objet de toutes les attentions cette année, puisque le congrès de la Guilde des carillonneurs de France s'est déplacé sur Champagné au mois de juillet, et ça a donné naissance aussi à des concerts. Et puis sur le bassin de Champagné, qui est un petit peu notre muraille de Chine, puisqu'il fait 786 mètres de long sur 36 mètres de large. C'est un mur qui a une particularité, c'est qu'il tient, c'est un barrage poids. Il ne tient que par le biais de son poids. On ne retrouve pas ce type de barrage par ailleurs. Et il retient les quelques 13 millions de mètres cubes d'eau qui sont nécessaires à la régulation des eaux du secteur.
Il y a aussi un musée unique qui est le musée de la négritude. Pourquoi ce musée de la négritude ?
Alors tout d'abord, nous avons l'habitude de l'appeler plutôt Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme, puisque pour nous, un musée est un état statique. Nous, on essaye de faire ici pour qu'il y ait une animation et que ce soit aussi quelque chose qui vive. D'ailleurs, la muséographie vient d'être revue et corrigée l'année dernière, alors qu'on avait largement le temps de le faire, puisque la question Covid nous a aussi impacté sacrément. Cette maison, pour moi, elle a un intérêt particulier, c'est l'intérêt qu'ont porté les gens de 1789 à leurs semblables, alors qu'à cette époque-là, personne n'avait l'occasion de pouvoir voyager. Et de se soucier des Noirs dans les colonies était vraiment une gageure. Ils ne savaient pas ce qu'était le peuple noir, sauf qu'à l'intérieur de l'église, nous avons le tableau de l'adoration des mages. Et c'est parti de cette question-là. Et nous avions aussi sur Champagné, dans la maison qui est à côté de la maison de la Négritude, un garde du roi qui a pu enseigner aux gens la question des Noirs dans les colonies et leur dire qu'effectivement, bien loin dans les contrées, les gens vivaient l'horreur. Et c'est de cette horreur-là que se sont émus les gens de Champagné en signant le vœu de 1789.
Bien, merci Madame le maire. Je pense que nous allons poursuivre maintenant avec Élodie qui va nous faire découvrir justement ce fameux tableau dont vous nous parlez et puis ensuite faire le tour de la maison de la négritude, j'ai bien compris, et non pas du musée de la négritude. Et vous avez raison de le souligner parce que c'est un problème qui n'est jamais terminé dans notre monde actuel malheureusement et c'est bon de le rappeler par une maison plutôt qu'un musée. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie de votre venue ici sur Champagné.
Nous voici maintenant à l'église Saint-Laurent avec Élodie Lambert. Merci Élodie de nous recevoir pour nous commenter cette église dans laquelle il y a beaucoup de choses à découvrir.
Alors tout à fait, cette église, comme beaucoup d'églises, est riche d'un patrimoine que je suis heureuse de vous faire découvrir aujourd'hui. On mettra l'accent bien sûr sur le tableau de l'adoration des mages tout à l'heure pour le lien particulier qu'il a avec la maison de la négritude. Mais au-delà de ce tableau, vous avez sans doute remarqué la très belle chaire qui est classée. Elle évoque les évangélistes, chacun d'entre eux étant matérialisé par son animal totem. Vous avez une lampe qui brûle de manière perpétuelle pour répondre aux vœux formulés par la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, venue à Champagné en 1683 et qui a fait don de 30 pièces d'or pour que cette lampe brille. Alors cette église, elle est aussi d'un point de vue architectural très classique du style comtois. Vous avez vu son clocher à bulbe avec les tuiles vernissées. Elle a une particularité, c'est qu'elle abrite un carillon de 33 cloches. Et aujourd'hui encore, ce carillon a son maître carillonneur attitré qu'on peut entendre de Pâques à la Toussaint. Cette église, elle a été construite entre 1785 et 1788. Elle est en grès des Vosges. Elle a été reconstruite en fait pour remplacer l'ancienne église de Champagné qui était devenue trop petite et qui était très abîmée. Il a fallu d'ailleurs beaucoup de temps pour arriver à cette réalisation puisque Champagné était dans la gouvernance des princes-abbés de Lure et pendant une quinzaine d'années environ, entre 1770 et 1785, les princes-abbés et les habitants de Champagné se sont battus par procès interposé pour le paiement des travaux. Il était assez classique dans ce genre d'édifice que le chœur soit à la charge du seigneur et la nef à la charge des habitants, ce que ne contestaient pas les princes-abbés, mais le chœur qu'ils voulaient construire n'était pas en rapport avec la nef, il était beaucoup plus petit. Or, la population de Champagné avait énormément grandi, avec notamment la découverte du charbon et son exploitation à partir de 1750 et l'utilisation de ce charbon dans les verreries de Champagné qui, au XVIIIe siècle, étaient extrêmement réputées. On y fabriquait du verre bouteille, mais aussi du verre à vide qu'on trouvait dans les hôtels particuliers jusqu'à Lyon en passant par Besançon. Et donc la population s'était accrue, elle avait besoin d'un nouveau lieu de culte plus grand et c'est la raison de la reconstruction de cette église.
Nous nous trouvons dans une église donc du XVIIIe siècle, mais est-ce que le mobilier est du XVIIIe? Parce que par exemple, on voit que la chaire ne semble pas de la même époque, et en plus nous avons devant nous un tableau qui paraît beaucoup plus ancien.
Oui, alors il y a des choses qui étaient en fait conservées de l'ancienne église. C'est probablement le cas du tableau de l'adoration des mages, puisque ce tableau, les spécialistes de l'art le datent du début de la Renaissance, 1514 très exactement. C'est une peinture sur bois. Et donc cette peinture sur bois, on en a vraiment des traces concrètes au XIXe siècle, puisqu'on sait que l'évêque de Besançon voulait la faire vendre, considérant que les habitants de Champagné n'étaient pas assez instruits pour ce tableau. Les spécialistes de l'art disent qu'il est de la même facture que le retable d'Issenheim qui est présenté au musée Unterlinden de Colmar et qui est attribué à Grunewald. Le tableau de Champagné est anonyme, il n'est pas signé. Néanmoins, il est de cette période et on a effectivement des similitudes par rapport au traitement du sujet.
Issenheim, autant que je me souvienne, n'est pas uniquement sur l'adoration des mages. C'est un peu différent, non ?
C'est un retable en plusieurs morceaux, trois si mes souvenirs sont bons, et qui évoque aussi la nativité. Alors, on est toujours dans l'église de Bethléem, mais on est quelques jours après, au moment de l'adoration des mages. On repère sur le tableau, en arrière-fond, le bœuf et l'âne. Et au premier plan, on a les trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar qui viennent porter des cadeaux à l'enfant Jésus qui vient de naître. Il est dans les bras de sa mère, la Vierge Marie, symbolisée par son auréole, et Joseph, le père nourricier, est à l'extrémité gauche du tableau, caché par un pilier.
Chers amis auditeurs, je vous rappelle que nous sommes avec Élodie de Champagné. Alors, maison de la négritude, oui, pourquoi pas Champagné, mais pourquoi pas ailleurs?
Alors, la raison principal, c'est la redécouverte au début des années 1970 d'un document véritablement étonnant, contemporain de l'église dans laquelle nous sommes. Il s'agit du cahier de doléances de Champagney qui était rédigé le 19 mars 1789 et dans lequel, au-delà des difficultés de la vie quotidienne qui étaient classiques dans les cahiers de doléances destinés au roi Louis XVI, présente un article qui dénonce un système économique qui est normal et légal à l'époque, c'est celui de l'esclavage des Noirs. Pour les gens de Champagney, les Noirs sont des semblables qu'il faut traiter comme tels et donc, de ce fait, il faut mettre fin à l'esclavage des Noirs qui est justifié à l'époque pour des raisons économiques. Pour les gens de Champagney, les Noirs sont leurs semblables physiquement, mais aussi spirituellement. Et ils ont sans doute pu constater cela, non pas en rencontrant physiquement des esclaves, il n'y en avait pas ou très peu sur le sol de France, mais par le biais de cette adoration des mages dont nous parlions tout à l'heure, puisque sur ce tableau, il y a un homme à la peau noire. Il était bien connu ce tableau des gens de Champagney, puisqu'il le voyait tous les dimanches en assistant à l'office dominical. Cet homme à la peau noire, c'est le roi mage Balthazar. Mais encore fallait-il qu'il sache que l'esclavage existe. Et il est fort probable que pour le commun des Champagnerots, cet esclavage, c'était sans doute quelque chose de très lointain, voire de totalement inconnu. On sait que les moyens de communication étaient extrêmement limités à l'époque. Et la question qui se pose, c'est comment ces gens en sont venus à se pencher sur le sort des esclaves noirs. Le fondateur du musée, René Simonin, pensait que de même, les gens de Champagney n'auraient pas abordé le sujet, non par indifférence, mais par ignorance, et que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un homme instruit, imprégné des idées abolitionnistes. Dans la liste des signataires du cahier d'oléances, il y a un homme qui correspond à ce portrait, c'est Jacques-Antoine Priclair, dont la pierre tombale du papa est dans cette église. Il était garde du corps du roi Louis XVI, il exerçait sa charge à Versailles, et le hasard de l'histoire a voulu qu'il soit en permission à Champagney au moment de la rédaction du cahier. On pense que c'est lui qui a parlé de l'esclavage. À la cour, on connaissait ce sujet. Il y avait parmi les gardes, par exemple, des planteurs, des gens qui avaient une plantation et des esclaves. Mais il y avait aussi des gens qui étaient acquis aux idées abolitionnistes qui commençaient à se développer sous l'impulsion de la Société des Amis des Noirs. L'appellation négritude, elle est venue en 1971 pour remercier Léopold Sédar Senghor de son soutien. En fait, la relation du tableau et de la maison, elle est sans doute dans la prise de position des gens de Champagney. Comment ces gens pouvaient-ils prendre fait et cause pour des gens qu'ils ne connaissaient pas physiquement? Eh bien, peut-être que le tableau, en leur permettant de se les représenter, leur a permis d'arriver à la conclusion que ces hommes, ils étaient leurs semblables physiquement, mais aussi spirituellement, même si la religion des esclaves était une religion imposée à l'époque, puisque, par exemple, dans les colonies françaises, le Côte-Noir faisait obligation d'enseigner les esclaves dans la religion catholique.
Nous allons maintenant exercer notre curiosité en allant visiter la maison de la négritude que Madame le maire et vous-même avez évoquée. En fait, la maison de la négritude rappelle ce que la Déclaration des droits de l'homme doit à la commune de Champagney.
Alors, vous êtes maintenant donc au cœur de cette maison dont le pivot est en fait l'article 29 du cahier de doléances de Champagney. Il est d'ailleurs reproduit au cœur de cette maison. C'est lui que l'on voit en premier quand on entre dans ce lieu. Ce document, il était rédigé le 19 mars 1789 et inclus dans le cahier de doléances réclamé par le roi Louis XVI pour la préparation des états généraux. Sa particularité, c'est qu'il aborde le sujet de l'esclavage des Noirs, sujet qui commence à être discuté au XVIIIe siècle et remis en cause, notamment par la Société des Amis des Noirs. Pour bon nombre de gens, à l'époque, l'esclavage des Noirs, c'est normal, en tout cas, c'est légal, et rares sont ceux qui prennent fait et cause pour les esclaves. Dans les cahiers d'oléances, ce sujet de l'esclavage, il apparaît à peu près dans 60 cahiers sur les 60 000 rédigés. Tous ne sont pas en faveur de sa disparition, loin de là, Vous avez par exemple Nantes qui demande à ce que les navires négriers soient protégés pendant les campagnes de traite. Et la particularité de Champagney, c'est que c'est le seul qui demande l'abolition de l'esclavage pour des raisons humaines humanistes. Pour la première fois, à une époque où le noir n'est pas considéré comme un être humain, mais comme un bien mobilier, les gens de Champagney vont demander la fin de cette pratique parce que pour eux, les noirs sont leurs semblables, semblables en humanité, semblable dans la religion. Peut-être faut-il y voir l'impact du tableau de l'adoration des mages dont nous avons parlé tout à l'heure.
Mais, si vous permettez, en quoi une simple commune, excusez-moi du terme, a-t-elle pu avoir une influence aussi importante ?
Alors, c'est le message de fraternité développé par les habitants de Champagney qui reste aujourd'hui d'actualité. C'est un message précurseur, mais c'est aussi un message qui reste malheureusement très actuel parce que l'esclavage aujourd'hui et l'exploitation de l'homme sous toutes ses formes est loin d'avoir disparu, même si officiellement ils sont interdits partout. De par le monde, on estime qu'il y a entre 20 et 200 millions de personnes, c'est difficile d'être précis parce que ça se fait de façon cachée, qui sont privés de leur liberté, asservis et qui se consacrent à des tâches diverses et variées qui vont de l'agriculture à l'industrie en passant par les tâches domestiques ou la mendicité forcée. De plus, il y a dans le cahier de Champagney une véritable conscience que finalement, tout homme est un homme, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son sexe, etc. Et c'est un message universel encore aujourd'hui qui, là encore, doit être développé à travers le monde.
Et vous avez beaucoup de visiteurs ? Est-ce que vous avez beaucoup d'enfants ?
Alors oui, nous avons beaucoup d'enfants. C'est d'ailleurs un tiers de notre public, puisque nous accueillons des scolaires de toute la Franche-Comté et parfois même des départements voisins, y compris Côte d'Or, Vosges et Alsace.
Et clairement, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette maison de la négritude ?
Je vous propose de me suivre. Je vous ai dit qu'on était accueillis par le cahier de doléances. On découvre autour de lui une exposition qui retrace le contexte de rédaction de ce document. On évoque par exemple le rôle de l'officier Préclair dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. On évoque le rôle présumé de l'adoration des mages. Et puis ensuite, l'exposition se poursuit sur la présentation de ces 4 siècles d'esclavage génois. Le point phare, c'est la cale de navires négriers qui occupe le plein centre de cette salle consacrée à l'esclavage. Il évoque à la fois la raison de l'esclavage, le besoin de main-d'œuvre pour obtenir à moindre coût sucre, coton, café, cacao, mais aussi le fonctionnement de l'esclavage qui est indissociable du commerce d'esclaves, puisque sur le continent américain où il va être principalement utilisé, cette main-d'œuvre noire va être importée de manière forcée, légalement jusqu'en 1815 et illégalement jusqu'à la disparition de l'esclavage des Noirs à l'extrême fin du 19e siècle. Autour de cette cale, on déroule en 5 grandes étapes l'histoire de l'esclavage des Noirs, de sa mise en place à ses héritages aujourd'hui, parce que l'esclavage des Noirs, par son ampleur, 15 millions de déportés, par sa durée, près de 4 siècles, a laissé des traces aujourd'hui, que ce soit dans les populations, le métissage, par exemple, des populations des départements d'outre-mer français, les Noirs américains aux États-Unis ou le métissage au Brésil, des poisons comme le racisme ou encore les discriminations, mais aussi des aspects culturels extrêmement forts comme le jazz ou la négritude. L'entassement qui est suggéré ici est bien réel. On estime à 4 esclaves par mètre carré, ce qui veut dire que ces esclaves sont dans l'impossibilité véritablement de s'allonger, de se tenir debout, puisqu'on les entasse sur plusieurs niveaux pour un voyage qui va durer près de 2 mois. Et c'est la raison pour laquelle régulièrement on les sort sur les ponts des bateaux de manière à permettre le dégourdissement des membres, entre autres. Il y a d'autres raisons, mais celle-ci en est une.
parce qu'ils étaient réellement enchaînés, comme on le voit dans la reconstitution, ou s'ils avaient quand même la possibilité, dans les cales, de pouvoir se déplacer malgré tout?
Alors, ça dépend du sexe et de l'âge. En réalité, on enchaînait seulement les hommes, qui représentaient la plus grande part de la cargaison, environ 2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes, parce qu'on avait peur des risques de révolte. Elles étaient d'ailleurs assez fréquentes, puisqu'on estime aujourd'hui qu'un bateau sur 10 l'a connu. La plus célèbre d'entre elles, vous la connaissez peut-être, c'est la révolte de l'Amistad, adaptée au cinéma par Steven Spielberg.
Tout à fait.
Alors, chaque thématique dans la grande salle est illustrée par des maquettes, des documents, des objets. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut découvrir la maquette d'une plantation ou d'une habitation, c'est-à-dire ces domaines agro-industriels sur lesquels on utilisait les esclaves. Ça permet notamment de comprendre le fonctionnement de l'esclavage et de percevoir aussi les hiérarchies qui existent dans l'esclavage, parce que l'esclave de champ, par exemple, est beaucoup moins considéré que l'esclave domestique.
On a connu quand même du temps des Romains des gens qui s'étaient révoltés, je pense à Spartacus par exemple, très connu. Oui. Est-ce qu'il y a eu des cas de figure identiques concernant l'esclavage?
Bien sûr, dès qu'il y a eu esclavage, il y a eu résistance. Elle commençait ses résistances dès l'Afrique avec des chefs de tribus qui refusaient de prendre part au commerce d'esclaves. Il y a eu résistance pendant les traversées, je l'évoquais avec les révoltes. Elles se poursuivent bien évidemment dans les colonies, on peut dire sous trois formes, sous forme culturelle ou intellectuelle. C'est par exemple des esclaves qui continuent de pratiquer en secret leur religion, généralement animiste. Ça va donner notamment à Saint-Domingue le Vaudou. C'est des résistances individuelles sous forme de marronnage, c'est-à-dire la fuite des esclaves. Et puis, c'est des révoltes collectives. Dans la plupart des cas, elles sont vouées à l'échec. À notre connaissance, il y en a une seule victorieuse, c'est celle de Saint-Domingue qui va conduire à la première abolition de l'esclavage. Il faut rappeler quand même si c'est rare, qu'il y a des esclaves qui ont pu sortir de leurs conditions d'esclaves légalement par l'affranchissement. Et dans la région, il y a un esclave célèbre puisqu'il a fini sa vie contraint et forcé au fort de Joux, plus exactement, à côté de Pontarlier, c'est Toussaint Louverture.
Et la provenance de ces esclaves?
Alors, en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y avait à peu près 150 points d'embarquement en esclaves le long de la côte ouest de l'Afrique. Ces 150 points, ils étaient approvisionnés, on va dire schématiquement, par les peuples de la côte qui obtenaient par la guerre et les razzias les esclaves qui allaient être vendus aux Européens. Et donc, ces esclaves, ils provenaient du cœur de l'Afrique, voire parfois de cette côte ouest, mais ça correspond en gros à cette partie au sud du Sahara jusqu'au cœur de l'Afrique.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait aucune différence entre l'apartheid et puis l'esclavage?
Alors, il y a une différence dans le sens où l'apartheid et la ségrégation qu'on a pu voir aux États-Unis ne sont pas liées à un travail forcé, mais en tout cas, ils trouvent leur essence dans l'esclavage. Aux États-Unis, c'est très clair, par exemple, quand on a libéré les esclaves, on n'a pas tenu, notamment dans les États du Sud, à ce qu'ils aient les mêmes droits que leur ancien maître. Et donc, progressivement, on va avoir toute une législation qui va se mettre en place, qui va consister à restreindre les droits des descendants d'esclaves, sans le dire. On va, par exemple, dire, eh bien, ne pourront voter que ceux qui auront eu un grand-père qui votait. Or, à l'époque, ça correspondait, en fait, pour les descendants d'esclaves, à leur grand-père en esclavage, qui bien évidemment n'avait pas ce droit. Et tout cela va être reconnu par la Cour suprême des États-Unis dans un arrêt qui est resté célèbre en 1896, qui va reconnaître la ségrégation comme étant légale, puisqu'elle permet un développement séparé, mais égal. Ce développement égal est bien sûr, ou malheureusement, fictif. Et dans les faits, cette ségrégation perdurera jusqu'au milieu des années 60. Donc les combats de Martin Luther King ou de Rosa Parks s'inscrivent bien évidemment dans la lignée de l'histoire de l'esclavage des Noirs.
Mais est-ce que votre maison permet de faire un certain nombre d'animations ?
Bien sûr. Alors, il y a bien sûr la visite classique. Quand je dis classique, c'est parce qu'elle est sous forme classique, mais avec les jeunes que nous accueillons, en général, s'instaure à différents moments de celle-ci des discussions comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Il y a aussi d'autres biais pour aborder ces questions. Par exemple, on propose aux enfants des animations contes qui permettent de partir à la découverte de la négritude chère à Sangor ou à leur permettre de découvrir des thématiques qui sont présentées ici au musée autour du racisme, des discriminations par exemple. On propose aussi des concerts, des conférences, des expositions temporaires. On a même fait pour la nuit des musées un escape game. Donc vous voyez, on est dans un programme extrêmement varié pour tous les âges et pour tous les goûts, avec un objectif, faire connaître ce message qui reste très actuel.
Et quelles sont les heures d'ouverture de la Maison de la Négritude ?
Alors, pour les animations qui sont organisées de manière ponctuelle, hein, j'évoquais les contes par exemple, tout est sur le site internet. Après, pour la visite, comme on l'a fait ensemble tout à l'heure, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en groupe et automatiquement on fait la visite guidée, soit vous êtes en individuel et dans ce cas-là, vous avez le choix entre la visite libre ou la visite guidée du vendredi à 16h30. En sachant que dans le cadre des visites libres, on est toujours à la disposition du public s'ils souhaitent des précisions complémentaires. On est en période hivernale, donc les horaires sont plus réduits. En ce moment et jusqu'au 31 mars, on est ouvert les après-midi du mardi au samedi de 13h30 à 17h30. Et la visite guidée a lieu tous les vendredis à 16h30.
Merci Élodie, ce fut un vrai plaisir et je ne pense qu'à une chose, c'est de continuer la visite en m'instruisant à partir de tous les panneaux et pour lesquels on peut y passer, je pense, une bonne petite semaine. Mais déjà, en une journée, on en voit déjà pas mal. Hein.
Alors effectivement, moi j'ai des visiteurs qui visitent en 20 minutes, donc ils doivent passer quand même à côté de certaines choses. Mais on a des visiteurs qui arrivent à passer l'après-midi, voire parfois la journée, qui reviennent l'après-midi pour découvrir l'exposition qui est effectivement très riche.
Merci beaucoup, mes chers auditeurs. Cette visite se termine hélas pour moi, mais elle commence pour vous. Vous avez toute possibilité de venir à Champagnet. Vous avez les éléments concernant les visites, les horaires. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Ce combat humanitaire n'en est pas terminé. Si vous voulez compléter cette émission, vous pouvez aller sur patenvbfc.org qui vous donnera accès à une vidéo, à un complément audio et un lien sur YouTube. C'est le Max termine. Merci de votre fidélité. Restez à l'écoute de RCF pour prendre connaissance des dernières actualités. À très bientôt. Au revoir.